sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Libre Débat. Et nous accueillons aujourd'hui avec un très 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 grand plaisir, on est vraiment très contente que vous soyez là, donc l'association Trait d'Union. Et on accueille donc une association de la cité de la Castellane dans le 15e arrondissement de Marseille. Et autour de la table aujourd'hui, eh bien, il y a Tawos, il y a Fadela. Bonjour. Et encore Fadela et également Amandine. Voilà. Et donc on est là aujourd'hui pour parler du dernier numéro de la baguette magique. Et je ne sais pas si on se remet un coup de musique ou pas avant. Non, on continue. Allez, ok, c'est parti. Donc, La Baguette Magique, le superbe journal des femmes de la Castellane, en tout cas de votre groupe de femmes. Et c'est un numéro un peu spécial. C'est le numéro 8 qui vient d'être publié. Et c'est un numéro un peu spécial. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est La Baguette Magique? Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce numéro ?
Bonjour à tous. On remercie la Radio Galère de nous avoir donné cette occasion de s'exprimer, de parler de notre baguette magique. La baguette magique numéro 8, c'est un journal qui a été créé par un groupe de mamans qui sont de la cité de la Castellane. On faisait des activités dans le centre social autour d'un café pendant une fois par semaine. C'est là qu'on a rencontré l'association 321 qui nous ont proposé de faire des activités avec elle et tout. On a continué. Et avec le temps, on a décidé de créer un journal pour pouvoir s'exprimer et parler un petit peu de nos problèmes, de ce qu'on fait, de ce qu'on aimerait faire et tout.
D'accord. Et donc, c'est un numéro par an, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous avez sorti. Et puis, d'un journal qui se fabrique d'une manière quand même assez incroyable, puisque c'est vraiment un journal artisanal, puisque vous faites absolument tout.
À la main.
Vas-y, Fadela, tu peux nous expliquer peut-être comment vous le faites.
On fait tout à la main, on fait les dessins, on écrit nous-mêmes avec tout ce qu'on a fait toute l'année. On essaye de parler de tout, de notre enfant, de notre cité, de notre vie, de notre besoin. On essaye de donner une autre image pour notre quartier. On dit on est là, on est des mamans, il y a des quartiers, il y a des familles. Franchement, ils ont besoin de le voir. Et pour les petits aussi, les pauvres, franchement, ils ont besoin de regarder l'extérieur. Et on dit tout ça dans le journal pour comme ça, les gens, ils l'entendent et ils nous soutiennent parce qu'en franchement, on a besoin beaucoup de soutien là.
Et donc, j'ai envie de demander, en fait, pourquoi il n'y a qu'un numéro par an et pourquoi il n'y en a pas plus ?
Parce qu'on n'a pas assez de temps. La plupart, on est des mamans, on a des enfants. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. On se réunit déjà deux fois par semaine dans un local partagé à la cité de la Castellane. Et aussi, par rapport au financement aussi, parce qu'on n'a pas de moyens de financement pour le journal. Donc, c'était 321 qui a pris en charge le financement du journal. Donc, il y avait une question de temps et de financement aussi.
Ok. Et donc, le journal, jusqu'à présent, il s'est fait avec donc, l'association
321,
qui est donc une association qui est financée.
Le journal, oui, c'est ça.
Alors, c'est une association qui est financée par qui ?
Ils sont en partenariat avec, je pense, la CAF, la politique de la ville.
Ok. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même important d'expliquer cette histoire d'argent. Donc, on a une association 321, qui est une association donc, de centre-ville, qui est plutôt implanté en centre-ville.
La Belle Demi, oui.
Et donc, qui propose des activités, des actions dans certains quartiers de Marseille.
Oui.
Et donc avec cet argent, qui vient faire des activités. Donc cet argent, l'association 321, donc les personnes qui travaillent dans l'association 321, ont des financements pour faire un journal avec vous.
Oui, c'est ça. Au début, c'était financé par le centre social de la Castellane. Après, comme on a continué à faire les activités avec 3-2-1, donc c'est eux qui ont pris en charge le financement de ce journal.
Ok. Et donc, les articles, les dessins, donc les articles sont écrits par vous.
Par nous-mêmes, oui.
C'est ça? Oui. Et les dessins sont aussi...
C'est nous qu'on fait les dessins.
Hein. D'accord. Donc, en fait, donc vous, là... bon, je vais mettre les pieds dans le plat. Donc, c'est du travail gratuit, en fait, que vous avez fait.
Ah oui.
C'est ça?
Oui, c'est ça. On peut pas dire le contraire.
Bon, alors, donc, allons-y. Hein. Allons-y, parce que c'est un vrai nœud, en fait, hein, ces histoires d'argent, là, c'est un vrai nœud. Donc, voilà, je ne veux pas non plus vous mettre dans l'embarras. Donc, est-ce qu'on en parle ou pas?
En fait, nous, on n'a jamais cherché question d'argent. Nous, au début, on a commencé à faire autour d'un café partagé dans la cité de la Castellane avec le centre social. Après, on a décidé de créer ce journal. C'est, pour nous, c'était un message qu'on fait passer par ce journal. Et en même temps, c'est une rencontre entre les femmes où on se partage plein de choses. Et on n'a pas cherché à comprendre financement et tout. L'essentiel que nous, on fait du bénévolat pour l'instant. On n'a jamais cherché à comprendre l'argent, ça venait d'où et tout. Et 3DS, c'est une association qui faisait plein d'activités. Il n'y avait pas que le journal. Ils font d'autres activités aussi dans la cité. Mais nous, on le faisait gratuitement. C'était des bénévoles. On était des bénévoles.
Ok. Enfin, je veux juste préciser que donc je prends évidemment l'entière responsabilité de ce que je viens de dire, hein, en parlant de travail gratuit et tout. Mais moi, je c'est une question aussi pour moi qui travaille dans les quartiers populaires de comment on fait avec l'argent que nos associations elles reçoivent. Comment on fait dans les quartiers avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui sont souvent en très grande précarité. Et que voilà, il y a des personnes qui touchent de l'argent et d'autres pas, et voilà, et qu'en fait c'est aussi une question qui est jamais vraiment abordée clairement en fait entre les usagers des associations, les usagères et les personnes qui animent ces associations là, quoi. Voilà.
Donc, c'est toujours nous on n'arrive pas à comprendre toujours ça. C'est, je sais que les associations, ils ont toujours des financements pour faire des activités dans les quartiers. Mais nous, on ne comprenait pas, on ne cherchait pas à comprendre. Pour nous, c'était juste une façon de sortir, faire des choses, exprimer ce qu'on voulait. Mais au retour, on n'a jamais eu quelque chose. C'est toujours du bénévolat pour nous. C'est le journal, par exemple, on écrit, on fait des ateliers, on dessine, on fait l'illustration, on fait tout. Mais c'est du bénévolat pour nous.
Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que vous avez acquis pendant ces 10 ans un vrai savoir-faire. Voilà. En fait, oui. Là, est-ce qu'on peut dire que vous savez faire vous arrivez maintenant à faire un journal toute seule?
Oui, ça c'est sûr. Hein. On a appris plein de techniques, on a appris plein de trucs qu'on peut le faire nous seuls maintenant. Mais franchement, le moment qu'on a commencé le journal, on n'a pas pensé de l'argent. On a pensé pour dire des trucs qu'on a besoin de dire, ou tous les travaux qu'on fait toute l'année, ça ne gâche pas, ça ne part pas. Comme ça, on laisse toujours. On a dit le journal, ça reste trace aussi pour les activités, les trucs qu'on a fait. Mais on n'a jamais pensé pour l'argent. On n'a jamais pensé, ça prend tant de l'argent. Pour nous, c'était sortir. Il défoulait un peu parce que c'est trop pour nous les petits, on ne sort pas trop, on ne connaît pas le monde extérieur trop. On était fermés, il n'y a pas beaucoup de transport. Comme nous, on est fermés pendant, ça y est, à 9h, il n'y a plus de transport. Ça veut dire à 8h05, à Guèze, c'est le dernier bus qui part à la Castellane. Ça veut dire après, on n'a pas notre... ça veut dire qu'il faut qu'on rentre là à 8h. On est au bus, on est chez nous. Il n'y a pas de bus de nuit chez nous. Il faut qu'on monte jusqu'à Saint-Antoine à pied pour prendre les bus de nuit. Et ça, pour les bukounis des mamans avec des petits. Et je ne sais pas, parce que nous, chez nous, l'homme, il part au travail, il retourne, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc qu'il peut le faire. Peut-être des fois, il t'aide pour faire des courses. Ou les courses, les petits, ils sont malades, les activités, tout, c'est nous qu'on fait. Ça veut dire qu'on ne fait pas trop sur l'homme, c'est nous qu'on fait tout. Et c'est pour ça qu'on a trouvé le journal pour défouler un peu, pour sortir un peu, pour parler un peu. Nous, on est un groupe de femmes, on parle, on rigole. Ça, pour passer la journée et pour défouler un peu.
On reste pas à la maison fermée. C'est ça.
Et donc là, en fait, ce numéro, il est spécial parce que c'est le dernier, en fait, que vous avez fait avec 3-2-1.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est le dernier. Parce que là, aujourd'hui, on a créé notre association. Et on
qui s'appelle Trait d'Union.
Qui s'appelle Trait d'Union. Et on a décidé de continuer toujours le journal et on va chercher une façon de financer, de le financer. Pour l'instant, on n'a pas de financement, on n'a rien, on vient de la créer. Et pour dire aussi qu'on a appris plein de choses pendant ces années du bénévolat, mais on a appris plein de choses, on a fait de belles rencontres aussi. On a appris de nous et nous, on a appris des autres aussi. Et donc, c'est une expérience aussi. Aujourd'hui, on a plus confiance en nous. On a pu faire passer des messages aussi qui étaient enfermés à la cité de la Castellane. Aujourd'hui, on a quand même ça passé à l'extérieur. Et grâce aux rencontres qu'on a fait aussi, on a avec 3-2-1, on a rencontré des personnes quand même. On a pu sortir un peu de quartier et tout. Mais c'est vrai que question de temps, on a donné beaucoup de notre temps. Tout le groupe a donné beaucoup de son temps pendant des années quand même depuis 2007. Aujourd'hui, on est en 2022. Ouais. On a donné beaucoup de temps, c'est deux fois par semaine, toute la journée, des fois le week-end. On fait des rencontres, on sort et tout. Et tout ça, c'était du bénévole. Quand même, c'est beaucoup de temps donné.
Et donc, est-ce que vous arrivez à savoir à peu près combien d'heures de travail ça demande un journal comme celui-ci ?
Ouais, à peu près, on a 2 heures par semaine, on peut faire...
2 heures par semaine ?
2 heures par semaine, on peut faire toute l'année, on peut faire un journal. Et des fois, ça demande une journée pour placer, mettre dans l'ordre tous les trucs. Ça veut dire que ça prend 2 heures par semaine et une semaine complète pour mettre tout à l'ordre.
D'accord. Donc 2 heures par semaine, il y a 52 semaines dans un an, dans une année. Donc ça fait au moins une centaine d'heures de travail, plus une semaine entière. Donc on doit être grosso modo à 150 heures de boulot, quoi. C'est ça ?
Ouais, du bénévole.
Peut-être, n'y pas compté, mais peut-être.
Ouais. Et combien ça coûte un journal comme ça ? Est-ce que vous savez ?
Là, on fait à prix libre, non. On n'est jamais demandé. Là.
Ouais, ça, c'est le prix de vente, mais combien ça coûte de faire un... Il faut combien d'argent ? Parce que là, vous dites que vous n'avez pas de financement là, pour faire le 9e. Vous avez le projet de faire un 9e numéro.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc, pour faire un 9e numéro, il vous faut combien d'argent ?
On ne le sait pas.
On ne sait pas.
On n'a jamais su combien ça coûte. On cherche.
Dans là, avec l'expérience de cette année, on va compter, on va regarder comment ça prend de l'argent. Parce que là, on va faire à nous-mêmes. Hein. C'est nous qu'on va financer tout.
On les cherche dans la tête. Combien de heures.
Après, on va regarder combien ça prend, combien le truc. Ouais. C'est notre expérience cette année. C'est notre...
Oui, c'est-à-dire que toute la question financière, donc, elle était gérée par 3-2-1. Et donc toute la question de l'argent, de l'imprimerie,
notamment. Ah oui, notamment, c'est eux qui font tout.
Oui, et ok. Donc là, pour le moment, vous ne savez pas combien
il faut. Ah non,
vous ne savez pas. Okay. Elle n'a rien dit.
Ok.
D'accord. Et avec 3-2-1, on n'a pas fait pour le journal. Hein. On a fait des autres activités. Hein.
Ouais.
On a fait des activités à l'école, on a fait au collège. On est sorti avec eux pour leur projet à eux aussi. On n'a pas fait que notre que le journal là.
Ouais.
On a fait plein des activités aussi. On est franchement chaque vendredi on a des activités à l'école.
Avec
on
les
fait
enfants.
Chaque vendredi de 10h presque à midi, on fait des activités avec les petits à l'école. À la maternelle aussi, on a fait plein de trucs, on a fait des films, on a fait des petits livres, des histoires comme ça avec les petits de maternelle. On a fait plein de trucs. Franchement, on a pris plein d'expériences aussi pour travailler avec les petits. On essaye tout le temps d'améliorer. Et tout le truc qu'on fait avec nos enfants à la maison, on essaye aussi de donner à les autres. On sait toujours, franchement, faire plein de trucs. Et avec 3-2-1, on a fait plein de trucs. On a pris avec eux. Je ne dis pas qu'ils sont près de nous, mais nous aussi, on a pris.
Bon, alors ça va. Bon, bah, c'est bien. Et, mais, donc, ouais, vous avez appris plein de choses.
Ouais.
Et, est-ce que aussi, vous avez acquis de l'assurance ? Est-ce que, qu'est-ce que ça, aussi, ça vous a apporté oui, en termes d'assurance pour vous, aussi de fierté de vous-même. Ça vous a apporté quoi de ce point de vue-là ?
Moi, j'ai toujours rêvé d'être journaliste et j'ai jamais réalisé ce rêve. Et j'étais fière la première fois qu'on a fait le journal, j'étais fière de moi quand j'ai lu mon nom, qu'il y avait mon article, que tout le monde le lisait. J'étais fière de moi. Et aujourd'hui, quand même, on a plus de confiance en nous parce que quand on regarde le journal et que tout le monde nous valorise et tout, on dit que c'est nous qu'on l'a fait, on est des mamans, on n'a pas fait des grandes études et tout, mais quand même, on a réussi à faire un journal qui est parti partout.
Et pour moi aussi, avant que j'étais petite à l'école, j'ai lu tout le temps pour devant les profs des trucs. Ils me disent « Ah, toi, tu fais le journal de 20 heures tout le temps. » On le voit, on te voit là. Mais franchement, le jour qu'on a fait le journal, c'était plaisir. C'était plaisir pour nous, franchement. On l'écrit, on est responsable, on a des trucs qu'on fait nous-mêmes. Franchement.
Et du coup, quand par exemple vous voyez les autres journaux qui sont vendus et tout ça, est-ce que quand vous voyez un journal, vous arrivez à imaginer du coup comment il a été fait ? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment ça se fait un journal. Donc vous, quand vous voyez, je sais pas moi, Le Monde, Libération ou La Provence ou La Marseillaise, j'en sais rien moi, quand vous voyez un journal,
est-ce que vous arrivez à imaginer comme eux ? Parce qu'il manque plein de trucs, on fait pas comme eux. Mais franchement, il y a assez de boulot, hein. Il y a des trucs qu'il faut chercher, il y a des articles qu'il faut creuser pour le trouver, il y a des idées aussi, il faut qu'ils cherchent. Franchement, chapeau pour les journalistes.
Moi aussi, c'est pareil, parce que quand je le vois comme ça, moi, rien que les photos, parce que je suis avec l'air, je ne sais pas écrire. Après, quand je fais le dessin, je fais de... Parce que mon métier, ce n'est pas comme ça. Mais quand j'ai rentré comme ça, je suis content. Je suis content.
Mais parce que je trouve ça épatant. Hein, parce que, donc moi, ma mère, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire.
Ouais.
Et franchement, je ne l'aurais pas imaginé faire un journal. Et du coup, je trouve que c'est vraiment génial, quoi, que vous, non seulement que vous ayez commencé, mais que maintenant, vous sachiez maintenant faire un journal toute seule, quoi.
Parce que mon cœur, il est triste quand je le vois comme ça. Je dis, bon Dieu, il aide-moi, comme ça je vais écrire, je vais lire mon test. Après, moi, je ne connais pas lire. C'est ça. Après, j'ai crise.
Et oui, c'est ça.
Ouais.
Non, mais ouais. Franchement,
pendant le Covid, je ne trouvais pas personne. Après, quand j'ai rentré à l'hôpital, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a mis ici ? J'ai dit, c'est le docteur, mais elle est là. Elle est là devant vous.
Et
ouais. Après, j'ai parti en bus, le métro, jusqu'à l'hôpital européen. Après, je revenais et elle m'a dit, vas-y, mais pas donner, mais pas là. Parce que je sais écrire, je sais lire, je sais parler. Je veux demander la bilance. Mais moi, je viens comme un...
Oui, ouais. Tu ne savais pas.
Mais oui, je ne savais pas, c'est ça. C'est ça. Après, maintenant, je dis, attends, je vais forcer, je vais aller.
Et alors, du coup, avant de parler du contenu du journal, ce qui m'a aussi vraiment frappée, c'est que vous êtes devenue une vraie bande de copines.
Ouais. Copines, hein, on est inséparables. Tous à tous les groupes. Hein.
Parce que là, il y a vous trois, mais vous n'êtes pas que trois.
On est dix. Ouais, on a une complicité. En fait, toutes nos familles ne sont pas ici. Donc pour nous, c'est de la famille, c'est des sœurs. Quand on se partage tout. On se partage le bonheur, la tristesse, on se partage tout. Et on le voyait pendant le confinement. Tout le monde était confiné, mais nous, on était tous ensemble. On a créé un groupe. Sur Viber, on est resté en contact, celle qui est malade, celle qui avait besoin de quelque chose, celle qui était fatiguée moralement, comme on avait Souad qui était avec nous, qui était fragile, qui était traumatisée pendant le Covid. Donc tous les jours, on appelle, on reste en contact et tout. Pour moi, c'est, on est de la famille. On n'est pas des voisines, on n'est pas des copines, mais on est de la famille. On est une famille. On partage tout ensemble. Cette complicité, on ne la trouve pas de partout. C'est ça, le bien qu'il y a à la cité de la Castellane, c'est qu'on a une solidarité et une complicité qu'il y a pas que je ne vois pas dans d'autres quartiers. Moi, aujourd'hui, j'ai déménagé, mais je ne suis pas partie loin, je suis à côté. Mais je n'arrive pas à me détacher. Je suis toujours à la Castellane avec mes copines, avec mes voisines, avec... on est une vraie famille.
Et donc, vous êtes 10 dans ce groupe. Et vous vous connaissiez déjà d'avant ou l'amitié qu'il y a maintenant entre vous, qui vous lie, elle existait déjà avant ou elle s'est vraiment construite autour des activités avec 3-2-1?
Non, on connaît ça avant à cause de l'école. Mais on le voit, bonjour, bonjour, au revoir. C'était pas assez connaître entre nous. Mais après, on a commencé le mardi après-midi avec Stéphanie, le café, on parle, c'est des groupes de trentaine de femmes. Franchement, c'était... on sort avec plaisir. On va y aller, on va parler, on va rigoler. Après, on a rencontré le 3-2-1, c'était le vendredi après-midi. On est resté une quinzaine, c'est pas toutes les femmes qui sont parties avec eux. On est à peu près 16 femmes. On a commencé la première année, on sort avec eux, on fait des activités avec les petits, le mercredi, le truc. Après, on a dit, c'est dommage qu'on laisse tout ça partir. La deuxième année, on a fait un journal qui s'appelle Zéro. C'est toi la main. Toi la main, il n'y a pas de l'imprimante, il y a tout toi la main. Franchement, c'était trop bien. Après, l'autre année, on a commencé à faire le 1, le 2, le 3. Après, il y a des familles qui sont déménagées, qui sont parties loin. Et là, on a descendu à 9 et là, on a remonté à 10. Mais franchement, nous, les 10 qu'on est restés pendant 10 ans, on est tout le temps ensemble. L'autre, on ne sait pas l'autre aller où, on appelle, je n'ai pas attendu sa voix, elle n'est pas au message, je ne le vois pas au Fiber, je ne vois pas au Messenger, elle est où, on commence à poser des questions entre nous, on appelle entre nous, tu es où, tu fais quoi, tes enfants, et c'est de là que ça a commencé entre nous, franchement, le jour que mon père est décédé, franchement, j'ai trouvé mes copines à côté de moi et... C'était franchement un soutien. Je n'ai jamais oublié. Je n'oublie jamais mes copines ce jour-là.
Et oui, pour toi aussi, Taos, tu nous as... Donc, je dis au passage qu'on a fait... On a diffusé sur l'antenne de Radio Galère un podcast avec des témoignages des membres de votre association qui s'appelle... on peut le retrouver, ça s'appelle « La dignité, c'est nous ». Et où Taos, tu disais aussi dans cette émission à quel point la solidarité des femmes de l'association, elle était importante pour toi parce que tu es seule.
Oui, je suis seule depuis qu'en est décédé mon mari, parce que je n'ai pas rentré avec eux de 2007. Parce qu'avant, je s'occupais de mon mari, il est malade, tout ça, jusqu'à aller partir. Après, c'est Shafia. Il m'a dit, viens, comme ça, sors de la maison. Après, moi, j'ai resté un an dans la maison. Après, j'ai trouvé les femmes là. Après, moi, je ne connais pas. Hein. Même Fadela, avant, je ne connais pas. Après, deux semaines, après, on est avec des copines. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai dit à Fadela au téléphone. Fadela a dit, je ne peux pas déranger parce qu'il y a les enfants en Bruse. Je dis, elle, il y a des enfants. Mais j'ai resté quand même avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant le Covid, c'est Fadila. Elle a amené les choses pour le Covid à la maison, parce que je ne sors pas quand je fais l'opération. Il m'a dit, le docteur, il ne faut pas se sortir de la maison. Il m'a dit, parce qu'il y a un an le Covid, toi tu es fragile, en plus le cœur, il va te... Après, j'ai resté à la maison. C'est Fadila qui m'a surveillée. Il les porte des choses, il les porte de... Mais quand même, ça va.
Alors, on va se faire une petite pause musicale. Mais enfin, à moins que, Amandine, peut-être, toi, tu as une question ou tu veux... Voilà. Est-ce que vous avez envie qu'on ajoute quelque chose?
Ça va.
Avant de faire une petite pause musicale. Et puis après, on parlera du contenu du journal. Moi, J'ai adoré lire ce journal. Enfin, voilà, j'ai lu des histoires, des textes vraiment très, très beaux. Et donc, on y va avec, par exemple, Dahman el-Harachi. C'est toi qui as choisi Dahman el-Harachi. Non, c'est toi la coupable. Fandela. Pourquoi ? Donc, il y a Raya. Tu peux dire pourquoi tu l'as choisi ?
Ça, c'est franchement, ça me rappelle... De mon père, toujours, il m'a dit « Pourquoi tu laisses l'Algérie? Tu pars loin, reste avec nous. » Franchement, c'était pour moi. Tout le temps, j'ai dit « Pourquoi j'ai voyagé? Pourquoi je n'ai pas resté avec mon père ?» Parce que vraiment, il m'a dit « Ne pars pas, reste. » Et moi, je n'ai pas écouté. J'ai sorti, j'ai parti. Et ça me fait la peine. Après, c'était... C'est une histoire, franchement, elle me raconte mon histoire, moi aussi.
C'est ça, c'est de cette chanson de Dahman el-Harachi, toute l'immigration maghrébine la connaît. Ouais. Et combien on a dansé sur cette chanson. Et moi, j'ai tellement dansé sur cette chanson. Et c'est la chanson de l'exil par excellence.
Les gens qui ne vivent pas cette situation, ils ne le sentent pas. Mais nous, franchement, on le sent. Franchement, toute l'immigration, ils sentent cette chanson. Mais... Elles disent beaucoup de choses, elles expriment du truc que nous, on ne peut pas dire.
Ouais. Et donc, on y va.
العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال مدمو لعباد قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نجمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي
وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطي تعلم وكتب لي ما يدوم الايام ولا يدوم
صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
مسافر نعطيك وصايتي اديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك كيما صرالك اسراني هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et c'est l'émission Libre Débat. Nous accueillons aujourd'hui l'association Trait d'Union, une association de la cité qui est née dans la cité de la Castellane et qui se compose d'au moins une dizaine de femmes de ce quartier, des femmes formidables. Et donc, on parle aujourd'hui aussi de la baguette magique, le dernier numéro de ce très beau journal. Et peut-être avant de dire un peu ce qu'on peut lire dans ce journal, eh bien, on proposait d'en lire quelques passages. Et Fadela, comme il y a un homme qui a tellement compté dans ta vie, c'est ton père que tu as tellement aimé. Et j'allais dire, et quelle chance d'avoir aimé son père. Eh bien, on va lire « Il est où, mon père ?» Vas-y, Amandine, et oui, le micro.
Je devais avoir 14 ou 15 ans, et chez nous, on avait besoin de bouteilles de gaz. Mon père travaillait sans cesse et ne se reposait jamais. Alors, il m'a demandé de ramener les bouteilles à la maison. J'ai pris la marmite avec 4 bouteilles, et je me suis mise
c'est
à marcher.
C'est la barouette.
Ah, il y a marqué la marmite.
Ouais.
Tu imagines, les gens me regardaient avec pitié et disaient « Vous avez vu la pauvre, elle n'a pas de frère. » Tous les 3 mètres, on me lâchait un mot. J'étais fatiguée. « Mais où est-ce qu'il est, mon père ?» je me dis. « Comme ça, où est ton père ?» me dit-il en apparaissant d'un coup. Il prend la brouette, c'est ça, alors du coup. Il prend la brouette et les bouteilles de gaz et met le tout sur un tracteur. Il paye le conducteur et lui demande de m'amener à la maison. J'ai traversé le village comme ça, sur ce tracteur qui bougeait, et tout le monde me regardait. Je n'ai jamais oublié que mon père m'attendait au loin. C'était une relation unique qu'on avait.
Et donc c'est un des textes hein, que tu as écrit, Fadela, et donc c'était important. C'est sur ton père que tu as eu envie d'écrire, ouais. Parce qu'il y a 2 pages, en fait. Ça s'appelle « Souvenir de mon père ». Et il y en a un sur ta disparition, mais on ne va pas le lire là, parce que malheureusement, on n'a pas dedans, mais c'est vraiment un texte incroyable. Tu as disparu pendant 3 jours quand tu étais toute petite.
Ouais. Voilà, j'ai 3 ans.
Tu avais 3 ans, et bon, on a fini par te retrouver. Et heureusement qu'on t'a retrouvé, parce que quand même, sinon, on n'aurait pas eu la chance de te connaître. Donc, c'est super. Après, voilà, une histoire de film, une petite soif, une journée ensemble au garage, où tu as accompagné ton père
au travail.
Pendant une journée dans son garage. Ouais. Et les fous ne sont pas si fous aussi. Et on avait aussi sélectionné, parce que tu avais envie qu'on lise celui-ci, ouais, qui s'appelle Rouge comme, que je vais lire. Rouge comme. Mon père savait combien je l'aimais. À 11 ans, Je l'attends devant la porte et je lui dis... Ah, j'ai un problème de micro. Mon père savait combien je l'aimais. À 11 ans, je l'attends devant la porte et je lui dis « Tu n'as pas ramené des cerises, papa ? Tu sais que j'adore ça. » Il me dit qu'il n'a rien trouvé. Et d'un coup, il me prend dans ses bras et bascule mon corps dans son dos. Il me porte en rigolant. « Regardez, j'ai trouvé une cerise !» Tout le monde autour a ri et le rouge est venu sur mes joues. Je suis devenue toute rouge, rouge comme une cerise, a dit mon père. Et du coup, je voulais savoir, Fadela, toi, tu écris d'abord les textes en arabe et après, il y a quelqu'un qui les traduit, ou tu les dis en français, il y a quelqu'un qui les écrit, ou c'est toi qui les... Enfin, comment ça se passe ?
Ça dépend pour moi. Des fois, quand moi, j'écris des poèmes, j'écris en arabe, après, quelqu'un qui m'aide pour faire en français. Et c'est des jours que moi, comme ça, j'écris des petits trucs, j'ai raconté l'histoire en français, et il me crie directement en français. Et ça marche comme ça, des fois, comme ça. Et Hayat, tout le temps, le début que moi, je commençais, c'est Hayat. C'est Hayat tout le temps qui me fait en français. Moi, je fais en arabe, pourtant, elle parle pas d'arabe, elle parle kabyle. Franchement, c'était pour moi, c'est la chance. Hein. Elle me comprend, le moment où moi je ne parle pas trop français, elle me comprend, elle me fait les traductions en français, franchement très bien.
Et là, les textes à propos de ton père, comment ça s'est passé ?
Là, j'ai raconté l'histoire en français comme ça et Alice, elle m'a aidé pour écrire.
D'accord, ok. Donc Alice Daquin qui a fait une thèse sur les femmes de la Castellane, ouais, c'est ça ?
Oui, oui.
Qui a fait sa thèse et qui, du coup, a travaillé quelques années avec vous, hein, c'est ça ?
Ouais.
Ok, donc là, du coup, c'était en français. Et donc, comme tu l'as dit, toi, tu composes des poèmes. Tu es une poétesse, ouais. En fait, Fadela.
J'essaye. Je ne sais pas tout le temps, mais j'essaye. Des fois, ça sort toute seule. Hein. Des fois, je suis là et des trucs qui me sortent et j'essaye de sortir des trucs. Hein. Je défoule un peu, ça, c'est des trucs qu'il faut défouler avec, sortir. Les poèmes, ce n'est pas pour les plaisirs, c'est pour dire plein de trucs qui sont dedans et sortir, on dirait les gens, c'est ça, ça. Des fois, c'est avec des mots rigolos, des fois, c'est avec des mots touchants et c'est ça le poème.
Tu composes de la poésie depuis combien de temps ?
Depuis que je suis petite. Depuis que ma mère elle est rentrée avec mon frère à l'hôpital. Et depuis ce jour-là, je trouvais des fois, moi, de matin jusqu'à soir, seule à la maison, où je tourne toute la journée dans le village tout seul, parce que la femme de mon oncle, de le frère de ma mère, elle ne veut pas que moi je rentre chez elle. Et pareil pour le frère de mon père, sa femme aussi, elle ne veut pas que je rentre chez elle. Et bien, je pose ma journée dès l'âge de 4 ans, je tourne dans le village où je suis seule à la maison, parce que mon père, il travaille toute la journée. C'est pour ça que j'écris, j'ai passé une journée avec mon père au garage. Franchement, c'est la journée que je n'oublie jamais. Il essaye de me débarrasser partout, il me donnait de l'argent pour y aller au cinéma. Et ben, à l'âge de 5 ans, je pars au cinéma tout seul, il ne veut personne me faire rentrer. Il me dit non, il faut un adulte avec toi. Et franchement, c'était pour moi 3 ans, c'est un peu difficile, mais c'est passé.
Et ça représente, du coup, quand tu composes la poésie, c'est en arabe. Et tu parles très bien le français, mais enfin, ça représente quoi pour toi, la langue arabe ?
Ah, c'est ma langue maternelle. Franchement, c'était... Nous, en Algérie, on ne parle pas trop arabe. On parle, ça c'est comment le dialogue, ça c'est pas une arabe-arabe. Mais la langue arabe, pour moi, c'est... C'est moi. Je ne sais pas comment s'exprimer, mais c'est moi. Je peux dire tout sans bégayer, sans faire rien du tout. Et tout ce qui m'en sort de mon cœur, ça, les mots, elles viennent tout seuls. Je ne réfléchis pas parce que je sais que je ne veux pas tromper. C'est mes mots à moi. Et je sais que l'arabe, c'est... Je ne sais pas comment je dis, mais c'est à moi. C'est moi. Mmh. Et c'est ça.
Comme un trésor, quoi. Comme
ouais, c'est...
Quelque chose qu'on ne peut pas te prendre,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Taos, quand tu... là, il y a un texte, c'est un voyage auquel tu as participé. Ça s'appelle « Le voyage de Taos, Paris, Marseille, Nice ». Et comment tu l'as dit à quelqu'un qui l'a écrit ? Tu l'as dit en français ? Tu l'as dit en kabyle et quelqu'un l'a traduit en français ? Comment ça s'est passé ?
Parce que c'est Alice qui l'a marqué. Moi, je dis, Après, je réfléchis, je parle en français. Après, quand elle me pose les questions, je lui dis, qu'est-ce que c'est ? Elle m'a dit, il y a ça. Je dis, fais ça, parce que moi, je l'aime le voyage, parce que je ne sors pas avant. Je suis âgée maintenant, bientôt 70 ans. Parce que je l'aime le voyage. Avant, j'ai fermé à la maison, même au bled, même ici, avec mon mari. Je surveille lui jusqu'à ce qu'il est parti. Après, 2014, j'ai sorti de la maison. Comme ça, j'ai raconté les femmes. Après, c'est Alice qui l'écrit. Moi, je parle en français. Parce que des fois, elle ne comprend pas. Je dis, tu fais comme ça. Mais je ne sais pas s'il fait juste, si ce n'est pas fait juste. Parce que je ne sais pas lire, c'est ça.
Eh bien, Amandine, elle va le lire et tu vas nous dire... Elle va le lire, le texte, tu vas nous dire si c'est juste ou si c'est pas juste.
Ouais.
Alors, ça s'appelle Le voyage de Taous, Paris, Marseille, Nice. On a pris le bus tôt, avec Stéphanie, l'équipe, Fadila Touche, Alice, Fadila, Swad et ses enfants, Soraya, et moi aussi, bien sûr. En arrivant, j'étais émerveillée. Ouais. C'était la première fois que je découvrais la ville de Nice.
Ouais.
Rien à voir avec Marseille ou avec Paris, ouais. Et où j'ai vécu 3 ans.
Ouais.
C'était propre,
ouais.
Même si la nourriture est meilleure à Marseille.
Ouais.
On est toutes montées dans le petit train et on est allées jusqu'au château pour admirer la vue sur la baie. C'est là qu'on a pris une photo toutes ensemble.
Ouais.
On s'est baladées ensuite, un peu dans la vieille ville. On a vu un grand parc aménagé avec une fontaine qui faisait rire les enfants.
Ouais.
La grande place Masséna était magnifique, avec son carrelage noir et blanc. On a beaucoup marché, mais pour une fois, je n'étais pas fatiguée. Je me suis rendue compte à quel point c'est important d'entendre les personnes âgées, d'aller doucement. Ce voyage peut paraître anodin, mais je me demande aujourd'hui si je pourrais à nouveau partir comme ça. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à avoir mal aux pieds, à avoir des crampes, à ne pas pouvoir dormir. C'est vraiment dur, car je ne suis pas si vieille. Mais mon corps ne suit plus toutes mes envies. La Castellane, ce sont aussi des gens comme moi. Mon rêve, ce serait de guérir, de pouvoir rentrer dans mon pays, mais aussi de pouvoir voyager. Même à 4 pattes, je rentrerai au pays, voir toute ma famille de A à Z.
Ouais.
Ce n'est pas tellement de ne pas pouvoir marcher qui est le plus dur, c'est la solitude. Nice, en réalité, c'était une toute petite pause dans mon quotidien, où j'ai oublié le quartier et mes soucis. Pas facile de revenir à la Castellane après ces quelques heures rêvées de voyage.
C'est ça.
C'est juste alors.
Alors c'est ça que tu voulais dire ? Elle a bien traduit tes...
ouais.
Ce que tu voulais dire ?
Ouais.
Bon, alors c'est bien. Bravo Alice. Ouais. Et donc, en fait, moi j'ai posé toutes ces questions sur les histoires de langue parce que on est dans un pays où en fait il y a énormément de gens qui parlent d'autres langues que le français et qui ne parlent pas le français. Et en fait, souvent on oublie la question de la traduction. Et on oublie en fait de donner la possibilité aux gens de parler. Et donc je trouve que c'est vraiment formidable ce que vous réussissez à faire dans votre collectif, c'est-à-dire de permettre à chacune de s'exprimer, quelle que soit sa langue, et sans forcément aller appeler des traductrices professionnelles, mais vous vous débrouillez entre vous et voilà, et vous vous mettez chacune au service de l'autre. C'est quand même hyper beau.
C'est vrai.
Et donc voilà, donc ce journal, on a vraiment, il y a des récits de voyage, des récits de promenade, il y a des textes plus personnels, des témoignages. Et en fait, vous l'avez, comme c'est les 10 ans en fait de la baguette magique, vous avez fait un peu un retour sur votre histoire, quoi. Vous avez, si je puis dire, regardé dans le rétroviseur, quoi. C'était ça l'idée.
C'est
pas grave.
C'est un résumé. En fait, c'est un résumé de ce qu'on a fait depuis 2012. Tous les articles qu'on a fait, on a un petit peu résumé ce qu'on a fait. On a rajouté parce que à chaque fois on parlait de transport, l'unique problème qui voulait pas se résoudre, malgré qu'ils ont fait une ligne en plus, mais c'est pas assez. Et on parle, et ça a rajouté la rénovation aussi. Donc à chaque fois, on rajoute quelque chose et ça, c'est une, à chaque fois, c'est un numéro spécial.
Ok. Et donc il y a... alors, bon, on ne va pas dévoiler tout de suite... on ne va pas dévoiler tout de suite la fin, mais moi, j'avais envie de lire aussi la légende de la carpe koi. Pour raconter nos transformations individuelles et collectives dans l'aventure de la baguette magique, nous nous sommes aidés d'une vieille légende chinoise adoptée au Japon. Cette légende raconte l'histoire des carpes koi qui remontent à contre-courant le fleuve jaune de Chine. La remontée est difficile et pleine d'obstacles. Seules les carpes les plus persévérantes qui parviennent à remonter et passer la cascade de la porte du dragon sont alors transformées en dragonnes. Cette image de bravoure nous a inspirés, car la baguette magique n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Chacune a grandi à sa manière le long du voyage. Et si certaines d'entre nous ne se sentent pas encore tout à fait dragonnes, on s'est toutes vues pousser des ailes. C'est cette remontée de rivière, à la force de nos bras, de celle des membres de l'association 3-2-1 et de toutes les rencontres qu'on a vécues, que l'on veut raconter aujourd'hui. À l'image de la légende, les articles qui suivent parlent de la transformation, d'entraide et de bonheur partagé sur le chemin. Et donc, et je voulais vous demander, là maintenant, pourquoi vous avez décidé de vous occuper toute seule du journal ?
Parce qu'on a créé notre association, donc, et on a acquis de l'expérience. Donc, on a décidé de continuer le journal avec notre groupe et qu'il soit financé, j'espère. On aura un peu d'aide pour le financer.
Ok. Moi, j'avais envie... est-ce que vous voulez qu'on dise autre chose sur la baguette, sur la baguette magique ?
Oui, on voulait dire aussi qu'on avait Souad qui faisait des beaux, très beaux dessins dans la baguette. Donc à chaque fois, on faisait appel à elle, elle fait des miracles. En fait, c'est dommage qu'elle n'est pas valorisée, on ne voit pas ce qu'elle fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle fait des tableaux, elle fait la peinture sur soie, elle fait plein de choses. Mais c'est malheureusement, elle n'est pas... Elle n'est pas récompensée. On ne le voit pas.
Oui.
Et ça reste dans le quartier.
Et oui, parce que c'est vrai que les illustrations sont hyper belles. Et notamment, il y a une broderie qu'elle a fait, que vous avez prise en photo et donc qui est reproduite dans le journal. Je suis en train de la chercher pour la décrire. Voilà, c'est une broderie avec des oiseaux.
Ça, c'est Hayat.
Ah, ça, c'est Hayat. Pardon. Alors, du coup... c'est ça, c'est ah oui, d'accord, c'est les dessins. Ah oui, c'est vraiment très très beau, hein. Oui.
L'image de Miramar, c'était magnifique.
Oui, Miramar, qui est une balade que vous avez fait.
Oui, oui, c'est dans un endroit qu'on a repéré avec Hôtel du Nord. On a fait une balade
avec l'association Hôtel du Nord, qui organise des promenades dans Marseille.
Voilà. Oui. On a fait plein de promenades avec eux et on a fait la balade avec les enfants, les familles, les mamans et tout. Et c'est là qu'on a vu, on a écrit ce article sur Miramar. Et Souad, elle a fait le dessin.
Ouais, mais c'est vraiment, c'est super beau. Hein.
Vous pouvez regarder aussi les autres, le 6 ou le 7 aussi. Pareil, elle a des bons dessins aussi. Elle a fait franchement des tableaux.
Elle a appris où ?
À l'école, c'est elle. Hein. Je crois que c'est elle-même. Mmh. Elle aime dessiner. C'est pas après à l'école ou quelque chose, mais c'est elle qu'elle aime dessiner et elle dessine. Hein. Franchement, des fois, elle me donnait des conseils parce que des fois, moi aussi, je dessine, mais pas comme elle. Franchement, des fois, elle me donnait des conseils, des trucs. J'ai dit, t'as pris où ? Elle m'a dit, non, c'est moi. C'est vrai, non. Elle dessine très bien.
Mais c'est vrai que ouais, ça pose vraiment la question des limites, en fait, des limites qu'on a quand on vient des classes populaires et quand on vient des quartiers populaires. en fait, pour que notre travail soit connu, il soit reconnu. C'est vraiment ça que ça dit, en fait. C'est une superbe peintre. Et oui,
on ne voit pas ce qu'elle fait. C'est malheureux, c'est ça. C'est pour ça qu'on parlait à chaque fois de l'abandon des familles dans le quartier. Oui. Comme il y a des mamans, il y a des papas, il y a des enfants qui ont des dons comme ça, qui font des choses merveilleuses, mais qu'on ne voit pas. Je pense que si c'était dans un autre quartier, ça serait vu plus que ça. Là, comme c'était la Castellane, il n'y a personne qui la calcule. Soit, franchement, si c'était dans un autre quartier, ce qu'elle fait, c'est vraiment, ça mérite de le voir.
Oui, mais parce que ça pose aussi la question des réseaux, en fait. Des réseaux. Alors, quand on parle des réseaux maintenant, je ne parle pas des réseaux de drogue. Je parle des réseaux, des réseaux professionnels ou des réseaux dans de métiers ou quoi. En fait, quand on vient des quartiers populaires, on n'a pas beaucoup de réseaux à l'extérieur, en fait, de la cité. Et du coup, c'est difficile, en fait, de sortir de là, en fait.
Et même quand on voit toutes les associations qui interviennent dans la cité, franchement, ils ont vu ce qu'elle fait, soit quand même, mais il n'y a personne qui prend en considération ce qu'elle fait. Et même par rapport aux petits, aux jeunes, il y a des jeunes qui ont des talents, mais il n'y a personne qui les calcule. Donc ça rentre dans le milieu de qu'on s'en fout de quartier, on vient pour faire nos activités, prendre ce qu'on peut et repartir. C'est malheureux parce qu'il y a des petits qui ont des dons à avoir. Si on les accompagne, ils vont faire des miracles.
Oui, c'est on la sent, quoi, la colère, Fadela. Oui. On la sent, ta colère, et elle est totalement totalement justifié, quoi, parce qu'il y a vraiment un truc qui est pas juste, quoi, dans tout ça.
Ouais.
Et tu l'as d'ailleurs écrit.
Ouais. Tu le dis, c'est une injustice quelque part.
Ouais.
Je crois que c'est soumis.
Ouais, il y a. Et donc, parce qu'il y a à la dernière page du journal, il y a les remerciements. Et donc, il y a des gens qui ont remercié. Et chacun a remercié à sa manière. Et toi, tu as remercié à ta manière. Mmh. Et donc, tu as écrit « Aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont douté de moi et de mes capacités et qui ont construit des murs qui se dressaient devant moi. Car grâce à eux, je suis déterminée à atteindre mon but. Le monde dans lequel nous vivons est fait de haut et de bas, mais des fois, nous créons nous-mêmes les murs qui nous empêchent d'avancer. » Les obstacles deviennent gros devant un échec ou le jugement blessant d'une personne proche. Alors, on va écarter les obstacles et détruire ces murs pour avancer, réussir et réaliser nos rêves. Souviens-toi que quand tout semble aller contre toi et que la vie ne te sourit plus, il faut avoir confiance en toi, patiente, car avec amour et partage, on réalise tous nos rêves. Merci encore. Tu finis quand même en disant merci.
Oui.
donc tu l'as vraiment, t'en as gros sur le cœur. Hein.
Et oui, parce que c'est vrai, moi je n'aime pas l'injustice. Et je vois de l'injustice et de l'abandon dans le quartier. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans de partout. Et on voit les familles, nous par exemple, on est un groupe de mamans, quand même on a donné assez de notre temps, on a des mamans, on a nos soucis, on a nos problèmes, on habite dans des quartiers qui sont en précarité, qu'on a pas de travail, on n'a pas de moyens, on vit dans un quartier, pas de transport, il n'y a pas de médecin, on est resté sans médecin pendant deux ans. Pas de PMI pour les petits, il n'y a pas de poste, il n'y a plus rien. Mais quand même, on tient debout, quand même, on avance, on fait des choses, on a réussi avec nos enfants, on les accompagne. Mais nous, les mamans, on a de cette force, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu fragiles. Et pour vraiment faire sortir ces enfants de ce quartier et les laisser aller faire des études, moi, je trouve ça, c'est un miracle. Parce qu'il fallait pas que parler de la Castellane de l'extérieur, il fallait venir vivre dedans. Ça a dégradé le quartier pendant le confinement, la rénovation urbaine. Il y a personne qui vient pendant le confinement. Il y a personne qui venait regarder les familles. Il y avait des familles qui étaient vraiment dans le besoin. Il y avait une association qui a commencé à aider un petit peu, croire en ses rêves. Après, il y avait le centre social avec la politique de la ville qui sont venus. Mais ça restait les familles qui étaient vraiment dans le besoin. On n'accompagnait pas les familles, on ne ressent pas ce qu'ils ressentent, les gens. Les enfants, les jeunes, ils veulent vivre, ils demandent pas grand-chose. Ils demandent un stade, ils demandent un endroit où jouer, où s'amuser, où passer le temps. Il n'y a pas de transport, ils ne peuvent pas y aller loin. Ça veut dire à 8 heures, ils sont obligés d'être à la Castellane, sinon ils vont marcher à pied. Plusieurs fois, nos enfants sont revenus minuit, 1h du matin de centre-ville. Et nous, on est là à les surveiller, à attendre, attention, on reste au téléphone. Ça, moi, je trouve que c'est la discrimination, je trouve que c'est de l'injustice. De fermer le quartier, à 8 heures de soir, il n'y a plus rien. Et nos enfants, quand ils veulent aller à la plage pendant l'été, on ne parle pas. Et pendant l'hiver, alors là, à 17h, 18h, tout le monde est chez lui. Ça, après, on juge nos quartiers, on juge les mamans, on juge les... Ça, c'est... Moi, je ne supporte pas ça. Quand même, ce quartier qui était avant de presque 8000 habitants, qu'aujourd'hui, ça, avec la rénovation, ça commence à baisser un petit peu, et ils arrivent à survivre quand même, malgré les préjugés, malgré les jugements de le mur construit par certains journalistes, qu'ils ont dégradé l'image de la Castellane. Et on ne dit pas que la Castellane, c'est le paradis, on dit pas que... Mais il faut voir quand même qu'il est à l'abandon. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et les jeunes, les collégiens, ils n'arrivent pas à trouver des stages. Nos enfants, ils n'arrivent pas à faire les stages dans l'endroit qu'ils veulent. Un petit qui voulait faire ingénieur, il lui faut un endroit où faire son stage, il ne trouve jamais. Jamais, il n'y a personne qui peut le prendre. Il n'y a que le centre social, il y a certains médecins encore aujourd'hui, il y a la Lambra qui les prennent, mais après, on a un quartier où il y a beaucoup de petits de collège. Ils n'arrivent pas. Et après, ils vous disent pourquoi ils décrochent, pourquoi les enfants ils sont des guiteurs, pourquoi les enfants ils font ça. Mais il n'y a plus rien, il n'y a pas de travail, il n'y a plus rien. Et ça rajoute la dégradation de rénovation, que pour moi, ça m'a touché personnellement. Qu'on vient me casser ma maison comme ça, du jour au lendemain, m'envoyer ailleurs et tout. Et mes enfants, ils sont à l'école, moi je me suis attachée. Il y a nos voisins, on était 91 familles attachées comme on était soudées, on s'aidait et tout. Du jour au lendemain, on se retrouvait chacun où il est parti. Pourquoi ? Pour faire une route, aujourd'hui, une bosse qui met les gens en danger. Moi, je trouve ça, c'est de l'injustice. Et il faut améliorer l'état des appartements, s'occuper un peu des jeunes. Ça va être vraiment... Et s'occuper de transport, c'est prioritaire, c'est le transport, parce qu'on n'arrive plus à se déplacer. Il n'y a pas d'espace vert, il n'y a plus rien.
Tu veux ajouter quelque chose, peut-être, Fadela?
Oui, pour la Castellane, franchement, c'est un présent au vert.
Oui.
Oui, la journée, on peut sortir, mais la nuit, ça y est, on est prisonnier chez nous, on ne peut pas sortir. Les gens qui ne sont pas des voitures, franchement, ils sont... sont fermés chez eux à partir, ça y est, 20h, ils sont chez eux. On ne peut pas sortir, on ne peut pas promener dans la Castellane. On ne peut rien faire après. Les petits, ils ont besoin, comme a dit Fadela, des stages, on ne trouve plus jamais. Des stages pour nous ou le travail pour notre enfant, on met notre adresse, ça y est. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de travail. Il faut regarder ça. Il faut regarder aussi la pauvreté. Il y a des gens, franchement, ils meurent de faim. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas de faim à la Castellane. Il y a des gens, franchement, je le vois, ils cherchent dans la poubelle. Franchement, il y a des pauvretés à la Castellane. Il faut que l'État, qu'elle voit ça. Il y a des gens qui sont de la besoin. Peut-être on dit qu'on a... Moi, je n'ai jamais imaginé la France, c'est ça. Jamais imaginé la France, c'est ça. Franchement, c'était... Ils parlent de la sociale, ils parlent de plein de trucs, mais j'ai jamais vu des familles qui cherchent dans la poubelle. Je vis ça à la Castellane. Il y a des gens qui cherchent dans la poubelle.
Est-ce que vous avez l'impression que la situation, elle est encore plus difficile là maintenant ? Donc là, on n'arrête pas de nous parler de l'augmentation des prix. Est-ce que là, comment elle est là vous venez d'écrire la situation, mais est-ce que vous avez l'impression du coup que ça a empiré en fait les derniers temps ?
Depuis les derniers temps, depuis la guerre de trucs, ça y est, les jeunes, ils sont plein de jeunes qui ont perdu leur travail. Il y a franchement maintenant qu'on part à Lidl, au Carrefour ou n'importe, on ne part pas au rien. On part où ils mettent des promotions. Il y a des dates, des trucs qui sont périmés depuis quelques jours. Les jeunes, je vois, je le vis ça il y a la semaine dernière, des familles, ils sont en train de battre pour un yaourt. L'autre, elle a dit, c'est moi que je touche la première. Et l'autre, elle a dit, c'est moi que je touche la première. Parce qu'il y a en promotion et la date, aujourd'hui, ça, elle va finir. Franchement, les gens, ils sont besoin. Ils ont besoin. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'ils fassent des miracles, mais au moins, ils trouvent des travaux pour les jeunes. Et pour les parents aussi, hein, franchement, il y a des parents qui ne trouvent pas des travaux. Peut-être qu'ils trouvent des travaux de 2 heures, 3 heures, mais c'est rien. Et l'augmentation, il y a des patrons qui ne veulent pas augmenter la paye aussi. Ça, ils disent non, on ne rentre pas dans cette loi qu'il faut augmenter la paye, parce que nous aussi, on est dans la faillite. Et ça, les familles, franchement, elles sont en train de dégrader.
Et alors, là, à Marseille, il y en a pas eu beaucoup pour le moment, mais il y a eu des manifestations. Est-ce que les gens du quartier participent aux manifestations? Par exemple, demain matin, il y a une manifestation. Est-ce qu'il y a des gens du quartier qui participent aux manifestations ou pas?
Ah, ça, je ne peux pas te dire ni oui, ni non. Mais franchement, moi, mon mari, il a participé de quelques-unes. Mais j'ai jamais trouvé à côté de moi de quelqu'un que moi je connais. Je sais pas, parce que ils sont concernés pour ça, ou je sais pas, franchement. C'est des fois parce que on est des quartiers, on est des immigrants, et même qu'on part à manifestation, tout le monde te regarde. Ça m'est arrivé à moi, je suis partie avec eux, ils me regardent, même si pour les gilets jaunes. On cuisine pour les gilets jaunes et il y a une fois, il y a quelqu'un qui l'a dit un mot, franchement, ça ne me plaît pas. Ah oui. Et depuis, je n'ai rien fait pour eux.
Ah oui.
Ah oui.
Ça t'a gêné à ce point-là.
Ça m'a gêné. Il a dit des trucs, franchement, c'était... Moi, je ne peux pas être avec vous, mais je cuisine pour vous, je vous l'ai ramené pour me dire ce mot. Ça m'a touchée après.
Mais Fadela, il faudrait que tu reviennes quand même nous raconter cette expérience d'avoir cuisiné pour les gilets jaunes. Mais du coup, là, par exemple, vous, est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait être, enfin, pas une solution, mais en tout cas que c'est important de manifester, ou vous avez l'impression que ça ne sert à rien? Est-ce que vous auriez envie de participer à des manifestations et si vous aviez envie de participer à des manifestations, pourquoi vous n'y allez pas? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu là-dessus?
Tout à l'heure, mais
parce que bon, il y a les gens,
le regard des gens pour nous, ils nous regardent qu'on est, ils sont pas besoin de nous. Pourquoi on est là? C'est pour ça, je vois les migrants.
Tu veux dire les gens qui vous disent on n'a pas besoin? C'est les gens qui participent, les gens qui sont dans les manifestations, qui vous regardent mal.
Ils nous regardent mal.
Ah oui.
Et ben c'est ça. C'est pour ça, je vois pas beaucoup d'immigrations qui partent. Parce que moi, je vis ça. Je suis partie moi-même avant que j'habite ici, en ville. Franchement, j'ai rentré avec eux. Ils me regardent mal. Pourquoi il est là? Tout le monde, il pousse. Comme je suis extraterrestre, il vient de l'espace. Il va gêner tout le monde.
C'est à cause de ton foulard, tu crois?
Peut-être. Je ne sais pas. Ma foulard, c'est ma fierté. Je ne peux pas te dire. Je suis là, j'existe, et ma foulard, elle ne veut pas me gêner. Hein. Je suis aujourd'hui là, je parle, ma foulard, elle ne me dit pas, ne parle pas. Franchement, ma foulard, ce n'est pas un gênant. Hein. Comme quelqu'un, il met un casque, ou quelqu'un, il met un bonnet. Ou... C'est pas... je vois où le problème, moi. Il y en a plein de gens qui mettent, ils habillent comme ils veulent. Il y a des gens qui habillent, tu ne peux pas même pas regarder. Oh, il est habillé nu. Et c'est ça pour moi, hein. Ils sont habillés nus. On peut voir tout, mais ils sont habillés. Est-ce que ça, c'est gêne les gens? Ça gêne pas. Pourquoi ma foulard, elle gêne les gens?
C'est-à-dire que pourquoi un petit bout de tissu en moins ne gêne pas, et pourquoi un bout de tissu en plus gêne?
Et c'est ça le problème. Ça, c'est pas parce que moi, je dis je suis un musulmane. Ça, je suis pas parce que je suis dedans. Je croyais, je suis un musulmane, je suis fière de ça. Je suis fière que moi, je crois de quelque chose, parce qu'il y a des gens qui croient rien du tout. Ça, c'est leur histoire à eux. Mais moi, je suis fière de moi, je suis fière de ma foulard, je suis fière que je suis un musulmane. Et personne ne peut me dire non. Pourquoi tu es un musulmane? Je ne suis pas un terroriste, je ne tue personne. Je travaille comme tout le monde, je fais grandir mes enfants comme tout le monde. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre qui... Je ne sais pas, je ne peux pas te dire ni comme moi. Mais franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui part aux toilettes et fait des fleurs. Hein? Tout le monde n'est pareil.
Moi, je pense que la question de manifestation, c'est la confiance. Les gens, ils n'ont plus confiance. Nous, par exemple, quand avant la rénovation, avant qu'ils commencent la rénovation, ils ont commencé à faire des réunions, que nous, on a participé à toutes les réunions. de matin jusqu'au soir. On revenait à 9h de soir, il fait nuit. On ne faisait pas à manger à nos enfants parce qu'on croyait que ça va être un changement. On a croyé qu'on va nous entendre, qu'on va écouter ce qu'on a dit. Parce que nous, on était appliqués vraiment à fond. On écrivait, on dessinait avec les enfants, on faisait des projets. Finalement, ça n'y a rien à voir de ce qu'on a dit. Ils ont fait ce qu'ils ont préparé déjà, eux. Moi, je pense que ça joue aussi aux manifestations. Il y a des personnes, moi, des fois, personnellement, je dis, ils manifestent et perdent leur temps. Peut-être demain, il y aura un changement. Mais certains jeunes, peut-être, femmes ou hommes, pensent à ça. Ils vont dire, si moi, je vais manifester, qui c'est qui va m'écouter? De toute façon, une loi, elle est appliquée. Ils ont préparé déjà leur... Comme la rénovation dans la Castellane, ils ont demandé à personne à casser les maisons, à casser là. Ils ont demandé à personne, ils n'ont pas demandé aux habitants. Donc, pareil. Le changement, les lois, les changements qu'ils sont en train de faire et tout, c'est déjà préparé. Donc, qu'on va manifester, crier, est-ce qu'ils vont changer la loi? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'autre? Ça, c'est une question de confiance. Moi, je pense que c'est ça. C'est plus ça qui... Surtout nous, alors là, dans le quartier nord, déjà, on nous clash. Alors, si on va manifester, là, on nous regarde de travers.
J'ai l'impression que ça touche à sa fin, cette émission. On va quand même faire une interruption musicale et donc on va laisser le choix de Nour. Ah, et nous avons une jeune collègue, une jeune amie en régie à la technique, qui était assistante et qui a quasiment pris le contrôle des manettes sous la bienveillance de Karine, et elle va nous présenter le morceau qu'elle a choisi.
Ben bonjour, je vais vous présenter le morceau, le chanteur s'appelle Souf et le titre c'est Marraine.
On court là, ça fait 2 heures qu'on les attend.
Tu connais les meufs frérot, toujours 2 heures à se préparer. Oh là, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
J'ai capté. Est-ce qu'il a fille avec elle?
Tu l'as jamais vu?
Non, je l'ai jamais vu.
Ah, c'est la meilleure pote de Jules.
Fierté, cœur de pierre, mais c'est toi qui m'as fait changer. T'es mon petit bout de femme, y'a que pour nous que je peux tomber. T'as fait de moi un homme, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est que pour toi j'en fais des tonnes, si je suis ton roi, t'es ma reine. Fierté, cœur de pierre, mais c'est toi qui m'as fait changer. T'es mon petit bout de femme, y'a que pour nous que je peux tomber. T'as fait de moi un homme, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est que pour toi j'en fais des tonnes, si je suis ton roi, t'es ma reine. Lettre à toi ma femme, je pensais pas t'avoir dans ma vie. Dès le premier regard, je suis tombé love de ton sourire. J'aime tous tes défauts, t'es mon sang, ma meilleure amie. Et si tu tombes, je tombe, c'est devant Dieu qu'on s'est dit oui. Pour toi j'ai quitté la tête, j'ai mis de côté ma fierté. Ensemble on fait la paix et personne pour nous séparer. Avec toi j'irai à la guerre, nos contres c'est déjà gagné. Si je dois quitter la terre, toi seul seras me retrouver. Fierté, cœur de pierre, mais c'est toi qui m'as fait changer. T'es mon petit bout de femme, y'a que pour nous que je peux tomber. T'as fait de moi un homme, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est que pour toi j'en fais des tonnes, si je suis ton roi, t'es ma reine. Fierté, cœur de pierre, mais c'est toi qui m'as fait changer. T'es mon petit bout de femme, y'a que pour nous que je peux tomber. T'as fait de moi un homme, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est que pour toi j'en fais des tonnes, si je suis ton roi, t'es ma reine. Aujourd'hui je suis plus qu'un homme, je suis aussi un père. J'ai du poids sur mes épaules, et ça j'en suis fier. T'as donné la vie au plus bel enfant de l'univers. Maintenant qu'on est trois, je ferai de toi la plus heureuse des mères. Tu sais que quand t'as mal, j'ai mal. Pour ma famille, je ferai tout ce qu'il faut. J'ai fait de toi ma femme, je vais t'aimer plus qu'il n'en faut. Je suis celui qui séchera tes larmes. Tu m'as fait le plus beau des cadeaux. Ma famille, ma bataille, je porterai nos fardeaux. Fierté, cœur de pierre, mais c'est toi qui m'as fait changer. T'es mon petit bout de femme, y'a que pour nous que je peux tomber. T'as fait de moi un homme, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est que pour toi j'en fais des tonnes, si je suis ton roi, t'es ma reine. Fierté, cœur de pierre, mais c'est toi qui m'as fait changer. T'es mon petit bout de femme, y'a que pour nous que je peux tomber.
t'as fait de moi un homme, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est pour toi j'en fais des tonnes, si je suis ton roi, t'es ma reine.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et c'est toujours l'émission Libre Débat, toujours avec Tawos, Fadela et Fadela. Et moi, j'ai un problème de prononciation parce que nous, chez nous, les Kabyles, on dit Fadela. Et donc, c'est Fadela ou c'est Fadela
vous... C'est Fadela.
C'est Fadela. Ouais, Fadela. Ok. Donc, Tawos, Fadela et Fadela. Et Amandine. Et donc, vous êtes de l'association Trade Union, une association qui est née à la Castellane. Et donc, on te redonnera la parole juste après, Fadela, mais j'avais envie qu'on lise un des textes suite à ce que vous venez de dire aussi sur la cité qui s'appelle Casser les murs. Et on reviendra à cette thématique de la situation sociale dans cette cité.
Par le pire pour avoir le meilleur. Telle est la règle de la réussite. D'un collectif de femmes au centre social, au groupe bénévole de l'association 3-2-1, jusqu'à la naissance de notre journal, notre groupe de femmes est passé par un peu partout. Être une femme et une maman dans une cité aussi grande et avec des moyens limités, ce n'est pas toujours facile, mais on n'a jamais baissé les bras. Nous sommes des combattantes. Pour que nos enfants ne vivent jamais la misère, pour donner à nos enfants un meilleur avenir, pour qu'ils aient les mêmes droits que les autres. On a décidé de combattre l'inconnu, l'injustice, l'insécurité. Il y a eu des hauts et des bas, et le message ne passe pas. Mais pour avoir un avenir meilleur, nous ne lâcherons rien, nous ferons valoir nos droits. Nous casserons les murs qu'ils construisent pour nous séparer du monde civilisé. On en paye le prix, mais j'existe. On doit venir, m'écouter et me respecter. J'ai le droit de vivre et d'avoir ma place au milieu de cette société. Alors, on va continuer à casser les barrières et aller ensemble vers l'avenir, main dans la main, la tête haute, et affronter le monstre noir qui essaye de faire peur aux familles modestes. Doucement, un projet se prépare, notre projet d'association. Nous avons la force, nous en avons l'envie, nous sommes prêtes.
Donc c'est un des textes hein, que vous pouvez lire dans ce numéro 8 de la baguette magique. Et je te redonne la parole, Fadela. Est-ce que tu voulais... tu avais encore des choses à dire sur...
Par rapport au quartier.
Oui, ouais. Vas-y.
C'est pas... Là, je parle pour la Castellane. Je parle pour le quartier nord de la Castellane. Franchement, on est d'immigration. Mais nos enfants, ils sont des Français. Et ils ne connaissent pas leur pays d'origine. Ils ne connaissent que la France. Et pour eux, la France, c'est leur mère. Tu parles avec eux, tu dis, ils me disent, non, moi, je connais là. Je suis ici, j'ai grandi ici. C'est mon pays. Pourquoi ils me disent ça? Pourquoi ils me disent que je suis un migrant? Ce n'est pas vrai. Et c'est ces questions, ça tourne, c'est pas que chez moi. Ça tourne à toutes les familles qui viennent de l'étranger. Et je pose cette question pour les gens, peut-être ils répondent à nous, ils disent nos enfants ils sont où dans cette société, parce que nous on sait pas et eux ils sait pas, on est où, on fait quoi et pourquoi. Et seulement c'est ça que je veux dire.
C'est vrai que nous quand on va chez nous, on va en Algérie, où ils appellent nos enfants des immigrés. Quand ils sont ici en France, ils sont des immigrés. Alors, on est perdu, on est où? Donc, notre pays, il est où? Moi, je suis d'Algérien, je suis née en Algérie. J'ai grandi en Algérie. Et quand je retourne en Algérie, qu'on dit c'est un immigré, pour moi, c'est une insulte. Ouais. Après, je viens ici, on me regarde de travers, tu n'es pas d'ici. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, on m'a enlevé ma racine. Parce que je suis où? Je suis entre l'Algérie et la France. Il faut me construire un tunnel entre la France et l'Égypte, ça, peut-être c'est ça mon pays. Parce que si je ne suis pas chez moi, en Algérie, je ne suis pas chez moi, donc c'est où chez moi? C'est ça qui fait la peine à nos enfants. Parce que nos enfants pêcheurs, quand ici on leur dit vous êtes des immigrés, même s'ils sont nés en France, et qu'ils vont en Algérie, non, vous n'êtes pas nés ici, vous êtes des immigrés. Donc ils vont dire on n'a pas de pays. Et une personne qui n'a pas de pays, c'est qu'elle n'existe pas. Ça touche beaucoup et ça démoralise la personne de savoir que j'ai pas d'endroit. J'existe, on dirait que j'existe pas. Moi, des fois, je regrette. Je dis j'aurais dû rester en Algérie parce que là-bas, j'ai perdu là-bas et j'ai perdu ici. Mmh. Je sais plus. Des fois, ça me ralentit et je n'aimerais pas avancer parce que je me dis... je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû rester dans mon pays, malgré les problèmes, malgré les soucis, j'aurais avancé, mais j'aurais quelque chose à moi. Ici, je me dis, il n'y a que mes enfants qui me retiennent ici. Parce que des fois, pourtant on travaille, on a des droits, on fait tout, on fait nos devoirs, mais il y a toujours cette sensation que je suis une inconnue,
l'exil.
Je suis dans l'exil. Et donc, quand je retourne en Algérie, je ne retrouve plus ma place. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai perdu les deux places. Et c'est un grand fardeau à porter, qu'on porte.
Et toi, Fadela, ça t'arrive aussi de regretter d'avoir quitté l'Algérie, d'avoir élevé tes enfants en France?
Ouais. J'ai dit que moi, je restais là-bas. Je restais à côté de mon père. J'ai fait mes enfants là-bas, ils vont grandir là-bas, ils sont de ces places. Parce que là, ils sont pas une place. C'est ça le problème. Des fois que je parle avec mes enfants, ils disent, c'est qui nous? Est-ce que nous, on est français ou est-ce que nous, on est des Algériens? J'ai dit, vous êtes des Français, vous êtes nés ici, vous êtes... Ils me disent, mais non, parce que nous, quand on part à l'école, ils disent, non, vous êtes les enfants des migrations. Ils me disent, elle est où? Nous, on est où? Tu es en train de mentir. Eux, ils sont en train de mentir ou vous, tu es en train de mentir. Et on n'a pas de réponse. J'essaie tout le temps. J'ai laissé mes enfants, j'ai dit votre place, elle est là. Mais je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. J'essaie tout le temps donner le courage et pour mes enfants, comme ça, ils avancent. Mais ils regardent des gens derrière moi, tout ce que moi, je l'ai fait, eux. Avec une seule regarde, ça y est, tout s'est descendu.
Tu veux dire quelque chose là-dessus, Taos?
Moi, il m'arrive comme ça, à l'Algérie. Après, je dis, comment c'est-à-dire, vous reconnaissez moi, je ne suis pas ici. Elle m'a dit, parce qu'on ne te voit pas tous les jours. Je dis, quand même, moi, je viens tous les jours ici. Je sens la parole. J'ai dit, moi, des fois, je viens ici parce que des fois, j'ai malade. Je restais à la maison. Comment vous faites vous reconnaissez si je ne suis pas là? Il m'a dit, non, non, non. Il m'a dit, toi, ce n'est pas ici. Vous êtes en France. Tu as migration. Je dis, non, je n'ai pas vendu. Je dis, je n'ai pas vendu. Après, je dis, ici, j'ai à la loi. Ici, j'ai à la loi. Moi, je suis algérienne. Quand je pars en France, je suis français. Quand je pars à l'Algérie, je suis algérienne.
Ben, moi, j'ai l'impression que j'ai un peu résolu le problème parce que j'ai eu pendant longtemps... moi, j'ai 52 ans. Je suis née en Algérie. Je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Ma mère est arrivée très, très tard en France. Elle avait plus de 40 ans quand elle est arrivée en France. Ma mère est restée totalement attachée à l'Algérie à un point où elle n'a même pas appris le français. Elle ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas. Le français ne l'intéressait pas. Les Français ne l'intéressaient pas, le français ne l'intéressait pas. Et donc, quand on partait en Algérie, comme ce que vous racontez, on était toujours les immigrés. Bon, voilà, ici, l'immigré, voilà, le bougnoul, le ceci, le cela... Et en fait, pendant longtemps, ça m'a dérangée. Puis un jour, en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis une enfant de l'immigration. Et c'est ma grande joie dans la vie. C'est d'être une enfant d'immigré, d'être une enfant, la fille d'un Algérien et d'une Algérienne, et d'avoir grandi en France. Et donc, d'avoir comme ça dans ma tête, à la fois quelque chose de là-bas et quelque chose d'ici. Parce que moi, si je vais en quand je vais en Algérie, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas juste dire que je suis algérienne. Je dis que je suis algérienne, mais je vis en France. En fait, je vis en France depuis plus de 40 ans. Donc la France, c'est partie de mon histoire, c'est partie de mon identité. Et ici, en France, je peux pas juste dire que je suis française, puisque je viens aussi d'Algérie, et que c'est une place importante dans ma vie, l'histoire de l'Algérie, la langue et tout ça. Et donc en fait, moi, j'ai réglé le problème en disant, en fait, moi, finalement, ma patrie, mon pays, c'est l'immigration. C'est pas l'Algérie, c'est pas la France. En fait, moi, je m'en fous des deux. Moi, ma patrie, c'est l'immigration. Et c'est l'histoire de l'immigration qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça, c'est très difficile pour les autres à comprendre, parce qu'on veut toujours vous mettre dans une case. Mmh. Et quand on rentre pas dans les cases, c'est toujours un problème. D'accord. Donc, ça pose toujours un problème aux autres. Mais en fait, ça, c'est le problème des autres. Ça n'est pas mon problème. Donc, alors. Après, c'est un peu facile de dire ça, parce qu'on subit les conséquences de ça, puisqu'on n'a pas les mêmes chances. Quand on est un enfant de l'immigration, on n'a pas les mêmes chances qu'un franco-français, je dirais, quoi. On n'a pas les mêmes chances. Mais en même temps, moi, ça m'a donné un univers, mais vraiment incroyable. Et moi, je remercie ma mère. Je remercie ma mère, même si ça a été compliqué que ma mère ne parle pas français. Ça a été très compliqué pour nous. Mais en fait, je la remercie vraiment de ça, parce que grâce à ça, j'ai vraiment acquis quelque chose de très, très précieux, en fait, et de l'identité algérienne et de l'identité kabyle. Voilà. Donc, finalement, je me dis, bon, bah voilà, en fait, c'est un vrai problème pour les autres, mais c'est un problème pour les autres, c'est pas un problème pour moi, quoi. Donc, c'est le problème des autres, en fait. Bon, voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir résolu un peu, parce que voilà, moi j'ai pas d'enfant et je crois que je suis bien, enfin je suis vraiment très très contente de pas en avoir, et je suis très contente de pas en avoir ici, parce que si par exemple j'avais notamment un garçon, ben moi j'aurais très très peur pour lui, et j'aurais très très peur pour lui ici en France, quoi. Et si j'avais une fille, par exemple, que j'avais une fille qui décide à un moment donné de porter le foulard, j'aurais aussi un peu peur pour elle. Voilà, je sais pas comment je ferais, parce que c'est beaucoup de problèmes que ça lui attire, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc moi, je c'est vrai que je parle pour moi, je parle pas pour les enfants que je n'ai pas. Mais voilà. Donc, enfin, je sais pas si vous avez envie de répondre là-dessus.
Non, franchement, c'est un autre point de vue. Franchement, c'est intéressant aussi.
Bon, mais Fadela, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ?
Moi, je dis, c'est pour ça qu'on est là, on doit avancer, on doit continuer à avancer, parce que si on lâche, qu'on écoute, quand je suis d'Algérie, je suis une immigrée, je suis là, on ne fera rien du tout, les années passent, on se retrouve avec la canne et on n'a rien fait.
C'est ça, voilà.
Non, moi, j'ai jeté la canne.
Toi, t'as jeté la canne, c'est bien. Bravo. Mais alors, puisqu'on a quand même un peu de temps, quand même, Fadela, je voudrais vraiment que tu nous racontes cette histoire que t'as cuisinée pour les Gilets jaunes. Donc, comment tu en es arrivée à cuisiner pour les Gilets jaunes ? Toi, en plus, t'as une grande famille déjà, donc tu dois cuisiner pour ta grande famille, mais tu as ajouté les Gilets jaunes.
C'est à cause de ma cousine. C'est ma cousine. Il y a une fois, je suis partie à plein campagne. Je le trouvais au rond-point. Ils ont fait un peu de la tente là-bas et le truc. Je suis partie à plein campagne, ils laissent personne passer, le truc. J'ai passé avec mes pieds, j'ai marché pour y aller jusqu'à le magasin que je veux y aller. Et ben, je trouvais qu'ils ne sont pas de manger. Il y en a des bouteilles de trucs, mais tout c'est froid. Tout c'est l'hiver. Pour moi, c'est, franchement, ils sont en train de réclamer pour nous, pour tous les habitants de la France, franchement. Et j'ai dit, ah, les pauvres, ils sont en train de manger froid. Et bien, ma cousine, elle m'a dit, viens, on fait pour eux le couscous. Et c'est de là qu'on a commencé à faire du couscous pour eux. On fait des fois moi, des fois elle. Et on fait les courses entre nous les deux. Franchement, moi, je l'ai fait, elle prend. Il y a une fois, elle m'a dit, elle a pris, mais elle a dit, le temps qu'elle elle a donné pour eux, elle a dit, c'est avec le poids, c'est avec le... C'est halal aussi. Et pour elle, elle m'a dit, c'était gênant. J'ai dit, mais tu sais que je suis musulmane, je ramène des halal. Et l'autre, il a dit, mais non, mais nous, on ne veut pas. Et ben, depuis.
Et t'as arrêté ?
Ah ben, depuis, j'ai arrêté. Hein.
C'est incroyable.
Nous, on veut du porc, on veut pas de trucs. Et bah, c'est ça, hein, depuis. Hein. Si ouais. Demain, j'ai pas de porc.
Ça t'a blessé?
Ah oui. Parce qu'il sait très bien qu'on est.
Ouais.
Ouais. Ils veulent manger des trucs avec le porc chevaux. J'ai dit, bah, nous, on fait pas, tant pis pour vous.
C'est ça, et donc, continuer à manger les bottes de conserve.
Ah ben, c'est ça.
C'est vraiment, vraiment, enfin, bon, ouais, c'est de tous les côtés, quoi. Alors, il y a Karine qui me fait des signes et qui me parle avec les lèvres, mais je ne l'entends pas. Et on fait un dernier tour. Effectivement, il est 17h56, c'est bientôt la fin. Et donc, peut-être qu'on va finir avec la baguette magique et dire et ben, qu'il est dit, comment on peut se procurer ce numéro 8 ?
Il faut y aller sur le site. Le 8, on l'a, on n'a pas beaucoup dans le stock, mais si vous voulez nous appeler, nous envoyer un mail sur le site de l'association. Sinon, il est sur le site Tawana qui écrit sur le journal.
On va regarder.
Il y a tous les numéros.
D'accord. Et donc, il y a aussi le numéro, le site de l'association. Bah, peut-être qu'on pourra le mettre sur le site de Radio Galère et pour les personnes qui souhaitent se procurer le journal qui est à prix libre.
Oui.
Peut-être dire aussi que bah, votre association, là, vous avez envie de trouver des moyens financiers. Et donc, vous allez peut-être organiser des cantines. Voilà, et puis peut-être d'autres actions pour qu'ils puissent vous
Pour l'instant, nous on est tous les mercredis à la Jougarelle, on fait un café, ce qui s'appelait un café pour tous chaque mercredi. Aujourd'hui, ben, d'ailleurs, il y a Hayet, Sakina et Souad qui sont à la Jougarelle, qui font un café chaque mercredi. On s'organise, on fait un café, thé, des gâteaux, et il y a tous les mamans qui viennent, les enfants. On reste, on parle un peu de ce qui se passe et tout, ce qu'on a besoin. Et dans le projet qu'on est en train de faire, c'est justement faire... On voulait faire un vide-grenier, on voulait faire un repas. On verra si on pourrait faire des repas. On cherchait une cantine, peut-être la cantine de midi, pour faire des repas, pour pouvoir financer un petit peu le journal et les activités qu'on fait. Et voilà. Et pour l'instant, on n'a aucun financement.
Bon, bah, j'espère que vous allez arriver à en trouver. Et, voilà, et peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui auront ou des idées ou voudront vous donner un coup de main. Et voilà, elles trouveront les coordonnées de votre association, en tout cas des manières de vous joindre. Et voilà, et bah, c'est la fin. On est bien d'accord que c'est la fin. Est-ce qu'on finit avec une chanson? Bon, eh ben, écoutez, je sais pas. Je vous donne quand même, on se donne quelques secondes si vous avez envie d'ajouter quelque chose, de dire un petit mot encore au micro.
Non, merci. Le radio et vous aussi, vous les deux là, pour votre invité. Franchement, on a passé un beau temps avec vous.
Tu veux dire quelque chose, Taous?
Merci.
Ok. Eh ben, nous, on vous remercie aussi énormément pour voilà, toute cette discussion. Et j'espère qu'on vous retrouvera autour de cette table dans pas si longtemps. Et donc, on finit avec une des chansons que vous avez choisies. Et on choisit, soit chez les Freddum. Allez, chez les Freddum et Vgeitelha. C'est toi qui as choisi cette chanson, Taous. Pourquoi tu as choisi ça? Vgeitelha, c'est Bijaya est une belle ville. C'est la traduction du titre. Pourquoi tu as choisi ça?
J'ai choisi ça parce que... Parce que j'ai choisi ça parce que je l'aime, mon pays d'Algérie. C'est chez les Freddum que, après, quand je l'entends comme ça, après, je dis c'est bon. Je l'aime.
Eh ben, merci beaucoup. Merci à Nour et à Karine pour la technique. Merci à vous, les femmes de la Castellane. Vous êtes vraiment formidables pour tout le travail que vous faites. Incroyable. Et merci à Amandine. Et c'était Libre Débat sur Radio Galère 88.4. Et vous pourrez réécouter cette émission sur Internet. Je crois que c'est radiogalère.org, c'est ça. Et voilà, et on se retrouve bientôt, j'espère.